La première, podcast.
La première.
Bonjour, Jacques Olivier au micro, en direct de la Foire du Livre de Bruxelles ce samedi, pour un mémo gallo-romain. Il y a quelques mois, dans cette émission, je m'entretenais avec Hugo Janssens de nos ancêtres les Gaulois. Eh bien, je suis en mesure aujourd'hui de donner en quelque sorte une suite à l'histoire avec Les Romains en Wallonie, un fort volume qui paraît aux éditions Racine, un beau bébé, dont la rédaction était dirigée par Raymond Brulé, qui est mon invité. Bonjour Raymond Brulé.
Bonjour.
Alors en effet, donc les Romains en Wallonie, Léopold Génicot disait que c'était un événement capital. Si Jules César n'était pas venu, il n'y aurait pas de Wallonie.
Je pense qu'il faut certainement dissocier les deux idées sur le plan historique. Rome, ou en tout cas la période romaine dans nos régions, correspond en fait, on pourrait dire, à une espèce de temps de séparation entre un monde que vous connaissez, un monde gaulois, comme vous l'avez dit, et puis d'autre part, un monde médiéval. Et donc c'est en fait une parenthèse, longue parenthèse.
4 siècles et demi tout de même, hein, presque 5 même.
Presque 5, oui. Mais c'est une très très longue parenthèse. On peut dire que si l'on examine l'histoire sur le plan de la localisation de nos peuples. Nous avons chez nous des tribus belges, qu'on soit au sud, au nord, le long du Rhin, et que ces tribus belges en question ont en fait eux-mêmes leur propre histoire, et qui sera très rapidement confrontée avec Rome par rapport à la politique expansionniste de l'Empire, et puis plus tard, et il l'était déjà avant, confronté à une autre culture, à une autre civilisation, qui est la civilisation germanique. Et donc la parenthèse dont je parle, c'est un peu cette parenthèse qui existe entre un monde gaulois et un monde germanique dans lequel nous serons incorporés à la fin de l'époque romaine.
Oui, c'est d'ailleurs une des questions. Hein, les Belges, c'était qui ? Un peu des Celtes, un peu des Germains, un peu les deux.
La question
est encore un peu ouverte, hein, malgré tout.
Tout à fait. On peut dire que, d'après les sources anciennes, c'est plus difficile de travailler autrement. On est en présence, dans la Belgique actuelle, ou la Belgique au sens large, on est en présence d'un mélange de populations, un mélange très très fort, dans lequel il y a des Germains déjà installés, notamment dans les parties nord-ouest et nord-est. Et puis, il y a aussi des parties qui sont effectivement bien celtiques. Et c'est un espèce de compromis, notre région. Nous n'avons pas des Gaulois purs et durs. Voilà, nous n'avons pas des Gaulois purs et durs. Nous avons déjà un assemblage de peuples avant de commencer l'histoire romaine. Et en réalité, c'est aussi une richesse déjà à l'époque romaine, puisque nous sommes dans des territoires qui sont tout de même proches de la frontière. Donc nous sommes en plein dans un phénomène d'interculturalité. On peut dire qu'on en a bénéficié aussi.
Cela dit, évidemment, quand Léopold Génicot parlait, c'était au fond comme si Jules César était venu nous révéler la civilisation, hein, ou à peu près. Avant ça, nous n'existions pas quasiment.
Oui, ça, c'est la façon de voir l'histoire du 19e siècle, qui n'est pas tout à fait celle de Léopold Génicot.
Non, pas tout à fait. Non.
Mais c'est vrai qu'au 19e siècle, on avait un peu tendance à faire des raccourcis de l'histoire, à considérer qu'il y avait presque le bien et le mal, et que la civilisation ne pouvait être importée que par l'Antiquité, donc par les civilisations de la Méditerranée. Et donc, quand on était civilisé par Rome, on était en fait dans une situation nouvelle qui était en fait la finalité à laquelle on pouvait tendre. Mais à la fin du 19e siècle, il faut mettre ça au compte des historiens de l'époque. Tous les historiens du monde vivent aussi par rapport à leur époque et ont des idées, on développe des hypothèses qui sont toujours liées malheureusement à leur façon d'être inscrits au sein de la société contemporaine. Et à la fin du 19e siècle, comme chacun sait, c'est l'impérialisme qui a dicté un peu.
On colonise beaucoup.
Voilà, on colonise beaucoup.
Il y a des petits Jules César partout.
Exactement. Et Rome peut servir de modèle, puisqu'on considérait que la mission de civiliser les peuples était en fait liée à un phénomène de colonisation et qu'il n'y en avait pas d'autre voie pour civiliser les peuples. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec un peu de recul, et déjà dans le courant du XXe siècle, que ce n'est peut-être pas le maître mot que celui qui doit être utilisé, que celui de la colonisation. C'est pas vraiment et uniquement une colonisation à laquelle on a assisté pendant la période romaine, et en partie, mais pas complètement. Il y a d'autres phénomènes qui sont venus s'y rajouter.
Oui, c'est un peu tout le problème, hein, parce qu'on va vers ce qu'on appelle un monde gallo-romain. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on doit mettre là derrière, si je puis dire, hein, quoi. Il y a beaucoup de Gallos, un peu de Romains, beaucoup de Romains, un peu de Gallos, 50-50, qu'est-ce que, selon les cas, selon les lieux, selon les couches de la population. Comment trancher cette affaire? Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière le mot?
Je crois qu'en termes de population, nous avons affaire à des Gaulois qui sont, on dit, romanisés essentiellement. Il n'y a pas vraiment, je dirais, d'Italiens ou de Romains pure souche qui sont là en grand nombre. Il y en a, mais ce n'est pas l'essentiel de la population. Donc on vit dans un cadre de population qui est celui préexistant, mis à part quelques modifications de parties de population à la suite de la conquête de César. Mais pour le reste, le fonds de commerce, je peux dire, de la population reste gaulois. Simplement, quand on y rajoute la dimension romaine à Gallo, si vous voulez, c'est parce que on va aboutir en fin de parcours à véritablement découvrir une civilisation mixte qui s'est créée au fil du temps. Et cette civilisation mixte, on pourra l'appeler gallo-romaine, dans laquelle il y a une population de souche gauloise ou belge, puisque c'est pas tout à fait la même chose. Le monde gaulois n'est pas le monde belge. Et d'autre part, l'empreinte de Rome, comme l'on dit, va être évidemment très sensible, puisque cette empreinte de Rome va consister à modifier un peu les mentalités, mais surtout d'autres aspects qui vont être modifiés. Des aspects qui sont plus techniques, qui sont plus organisateurs, qui sont aussi le commerce. Donc d'autres valeurs vont être importées par Rome.
Oui, on verra ça dans le détail. Vous évoquez les mentalités. On sait que c'est quand même pas évident d'étudier les mentalités, surtout dans l'Antiquité. Et pourtant, alors continuons tout de même sur cette idée. Vous distinguez quand même différentes options. On a déjà évacué, disons, le mot colonisation, hein, à beaucoup d'égards. Mais il y a tout de même l'intégration, l'assimilation ou l'acculturation. Il faudra faire un choix, encore une fois, un tri entre ces trois mots.
Alors, on peut tenter de faire l'expérience. Assimilation veut dire que, en réalité,
on disparaît.
Ça disparaît, une population prend le leadership par rapport à une autre, prend toutes les rênes du pouvoir en main et la civilisation d'origine disparaît. C'est évidemment pas le cas, on peut éliminer ceci tout de suite, la colonisation n'étant qu'une façon technique finalement d'organiser un peu la pré-conquête. Alors, en ce qui concerne l'intégration, je pense qu'on peut répondre par l'affirmative. Il y a eu une part d'intégration du monde gaulois et du monde belge au sein du monde romain, parce que évidemment c'est devenu une province et donc la province a été intégrée à l'Empire et la population n'a pas réagi nécessairement en termes de personnes individuellement intégrées, mais en termes, je dirais, global, au niveau de l'administration, il y a eu intégration. On parle aujourd'hui, les historiens le font plus volontiers, d'une autre notion qui est celle de l'acculturation. Alors l'acculturation, ça veut dire d'abord que c'est un échange.
A de C, culturation.
Voilà, oui, hein, c'est pas la culture, c'est en fait quelque chose qui est un phénomène dans lequel tout le monde se retrouve. Chacun met dans un pot commun et dans ce pot commun, on aboutit finalement à cette civilisation gallo-romaine dont je vous parlais ou dont vous me parliez. Il y a le romain, il y a le gallo ou le gallo-belge qui apparaît et cette espèce de mixité entre les deux conduit à l'acculturation dans laquelle chacun apporte quelque chose. Ce qu'il faut aussi indiquer au niveau de l'acculturation, parce que sinon c'est un peu réducteur de qualifier ce phénomène sur le plan historique de manière aussi brève, c'est que l'acculturation est un phénomène, un processus qui prend du temps, qui est dynamique, qui évolue dans le temps. On n'est pas dans une phase d'acculturation une fois pour toutes. Le lendemain, les choses peuvent continuer à changer. Et si vous avez évoqué tout à l'heure les 500 ans d'occupation, entre guillemets, romaine pour nos territoires, l'acculturation commence le premier jour, elle prend des natures, des aspects différents tout au long de ces 500 ans. Et c'est un mouvement complètement... Donc on ne peut pas donner un jugement en disant chacun a porté ceci. Ah non, parce que chacun apporte ceci, Rome et la Belgique, mais c'est chaque fois différent d'un siècle à l'autre. Donc,
on est tributaire quand même, nos régions sont tributaires de ce qui se passe dans l'Empire, hein, de toute façon, puisque nous sommes intégrés.
On est tributaire sur le plan politique, mais vous savez, on est très loin de Rome, et bon, les soubresauts n'atteignent que difficilement nos provinces.
Ce qui se passe à Rome,
oui.
Mais nous sommes près des autres aussi.
Alors, oui, évidemment, du côté des voisins, là, on est tributaire, mais il faut attendre pratiquement vraiment la fin du IIIe siècle sans à peu près aucun problème de cet ordre, donc les premières invasions et puis les difficultés du IVe et Ve siècle. Mais Rome a vécu et ses provinces ont vécu quand même très longtemps dans une période, on parle d'ailleurs de la paix romaine, c'est pas pour rien, c'est parce que durant tout le IIe siècle, il ne s'est absolument passé rien en termes de menaces. Et pendant le Ier siècle, ça a été les premiers efforts après la conquête. C'est aussi presque une période de paix romaine. Donc il faut tenir compte de ça. Simplement, comme le seul monde connu à l'époque est le monde romain, on va vivre quelque part en symbiose avec le monde romain. Il y a des historiens qui parlent de globalisation déjà pour cette époque, vous imaginez.
La première
globalisation. Ça veut dire tout simplement que le monde romain peut vivre en synergie. Et on le voit par l'archéologie, par exemple. On voit arriver dans nos régions lointaines des amphores, donc des récipients qui transportent du vin, par exemple, des amphores qui viennent de très loin, qui viennent d'Asie mineure. On voit d'autres produits qui sont importés d'Afrique. Donc il y a un commerce qui se met en place qui est évidemment impensable dès le moment où on était dans un monde parcellisé. C'est en fait Rome qui a fait sa petite communauté, je dirais, mondiale de l'époque, donc la globalisation, et qui a permis ces échanges dans l'ensemble de l'Empire romain.
Oui, justement, c'est une question qu'on peut se poser. Dans quelle mesure est-ce que, puisque nous parlons de la Wallonie, hein, donc acceptons l'idée d'un espace qui correspond à celui d'aujourd'hui, hein, pour simplifier, est-ce que cet espace était déjà touché, comme beaucoup d'autres régions de Gaule, parce qu'on a montré qu'on trouve des amphores dans les fleuves, jusque très haut dans le nord, est-ce que cet espace wallon avait déjà un contact ou l'autre avec Rome avant César ?
Ah oui, dans une mesure évidemment beaucoup plus timide que le sud de la Gaule. Il faut bien savoir qu'il y a trois étages. Il y a le sud de la Gaule qui a été colonisé beaucoup plus tôt. Il y a le centre de la Gaule avec qui on a développé depuis Rome à partir du 2e, 3e siècle avant notre ère. On a développé des commerces. Les commerçants romains sont déjà là aux portes bien avant la conquête. La Belgique, hein, et on le sait par Jules César, notamment avec les Nerviens qui se retranchaient dans leur forêt profonde et qui n'acceptaient pas que y voir y arriver du vin, par exemple, c'est vrai qu'on était quand même dans une situation un peu reculée. Et le fait de notre proximité avec les Germains, avec lesquels il y a eu un mélange pour certaines régions du nord de la Belgique, n'a pas favorisé les choses et n'a pas ouvert les portes très grandes vers le sud. Donc il faut dire qu'on a accusé un certain retard, il est vrai.
Mais pour revenir à ce mot d'acculturation, vous dites que chacun apporte quelque chose. Dans ce cas précis, au fond, est-ce que les Belges n'ont pas conservé quelque chose plutôt qu'apporté quelque chose ? Qu'ont-ils apporté aux Romains ?
Je parlais en termes de mixité finalement du processus de la romanisation. Effectivement, les Gaulois ont conservé une grande partie d'eux-mêmes. D'abord, la population a commencé par là. Et donc, ils ont été influencés sur un certain nombre de choses, comme les modes, comme la façon de vivre. Et en final, les Gaulois ou les Belges n'ont pas apporté quelque chose de spécifique. Ils ont participé à l'économie globale. Ils y ont évidemment eu leur pierre dans cette affaire, puisque on sait qu'il y a des spécialisations toujours dans chacune de nos régions. Donc ils ont participé au grand commerce de l'époque, mais ils ont surtout été eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont accepté cette espèce d'intégration, ils y ont participé, mais la population...
Ils n'étaient pas chauds, hein, pas tous, hein, puisque vous venez de nous dire que les Nerviens étaient quand même un peu... enfermés dans leur forêt.
Avant, effectivement, avant la conquête, oui. Après, on ne peut pas mettre au compte, finalement, de cette époque, véritablement, beaucoup d'époques où il y a eu des révolutions ou des tendances à vouloir s'émanciper de Rome. Finalement, sur les 5 siècles, il faut bien voir qu'il y a eu quelques petites tendances à droite et à gauche qui sont en fait très localisées et dans le temps et dans l'espace aussi, des révoltes de très vite. D'autres révoltes, mais qui sont extrêmement limitées, qui ont été réprimées tout de suite et qui, aux yeux de l'histoire, finalement, ne comptent pas. Et il est aussi étonnant de voir, pour l'historien que l'on peut être, que finalement, quand le processus de cette romanisation s'est achevé et qu'on a mis fin à l'Empire romain, ce ne sont pas les Belges ni les Gaulois qui ont revendiqué leur indépendance. Il s'est passé un autre phénomène, c'est que c'est une autre civilisation, une autre culture qui a délivré, si on peut dire, les gallo-romains de la situation
chasse
antérieure.
L'un
chasse l'autre. Mais il n'y a pas eu de tendance, disons, à vouloir, après une civilisation, comme ça se voit souvent dans l'histoire, à revendiquer revendiquer une indépendance. Je crois que le temps était passé. Il y a eu évidemment des périodes trop longues pour que l'on ait même encore le souvenir au IVe siècle, par exemple, qu'il pouvait y avoir des volontés, des velléités d'indépendance de la part d'un peuple gaulois qui n'existait plus. Parce que ce peuple gaulois s'était bien intégré, on peut dire, au monde romain.
Mmh. Oui, la question de l'identité du Gaulois de cette époque...
Elle est perdue. Pour la fin de l'époque romaine, elle est évidemment perdue.
Ils sont romains.
D'ailleurs, ce sont les derniers romains, quelque part, puisque, comme vous savez, au moment, à peu près au milieu du 5e siècle, après notre ère, on voit apparaître encore les gens qui vont assurer la défense de Rome à partir de la Gaule et de la Gaule du Nord, contre finalement une situation qui était irrémédiable. Et ils vont même s'associer parfois à d'autres pour pouvoir lutter contre, globalement, le monde germanique. Donc la survie même de Rome, au moins dans l'histoire, ou en tout cas dans les mentalités, c'est aussi aux Gaulois un peu qu'on le doit, du moins pendant un certain temps.
Oui, ce qui est frappant, c'est que Rome a eu beaucoup plus de soucis ailleurs qu'en Gaule, avec ses territoires colonisés.
Oui, mais donc chaque période de l'histoire de ces 5 siècles n'est pas la même d'une région à l'autre. C'est vrai que l'Orient n'a pas été aussi une région très facile. L'Afrique n'a pas trop posé de problèmes. Nous, en Gaule, c'est la frontière germanique qui a posé des problèmes. Et ces problèmes sont nés pratiquement à la fin du 3e siècle. Et puis ça s'est intensifié après. Et puis surtout, au début du 5e siècle, c'était un peu la catastrophe. Là, la pression des barbares était trop forte. Et Rome n'avait plus les moyens de lutter, n'avait plus les moyens ni financiers, ni, je dirais même, militaires pour le faire.
Mmh. Pour ce qui concerne tout de même cette acculturation, encore une fois, j'en reviens avec cette idée des proportions. C'est parfois quand même très difficile à évaluer. Hein. Prenons la langue. Qui parle latin quand ? Pourquoi ? Le paysan, quand il a fini sa journée qui rentre chez lui, quelle langue parle-t-il ? Ou au bout de combien de siècles commence-t-il à parler le latin ? Je veux dire que ça doit être extrêmement compliqué d'essayer de comprendre ce qui se passe. Hein.
Alors, pour la langue, évidemment, on part de ce que nous avons comme information, c'est-à-dire des sources anciennes. Vous imaginez bien que les seules sources anciennes que nous avons pour ces périodes, elles sont en latin. Je veux dire par là que si on fait la preuve de l'utilisation du latin, ce sont les auteurs anciens, ce sont les textes de loi qui le prouvent. Donc, nous n'avons aucun texte pour nous expliquer quelle est la part de la langue gauloise qui subsistait. Donc, on est là réduit pratiquement à faire des suppositions. Ce que l'on sait, c'est que les actes officielle, que la langue officielle depuis le départ a évidemment été le latin, ce qui ne voulait pas dire que tout le monde parlait le latin. Nous avons des actes encore aujourd'hui qui sont parfois très illisibles dans un français très juridique qui est difficile pour tout le monde de comprendre. Bon, cette langue-là, c'est-à-dire ces actes-là, étaient en latin, bien entendu. Mais la langue gauloise a subsisté. Et nous avons très peu de textes. La langue gauloise, ce n'est pas une langue qui s'est écrite beaucoup, c'est plutôt une langue qui se parle. Et donc, nous n'avons pas de moyens de vérification très précis du développement de la situation. Quoi qu'il en soit, à l'occasion de l'une ou l'autre découverte, on voit encore qu'au 2e ou 3e siècle, nous avons des textes gaulois gravés sur des plaques, par exemple, qui nous révèlent qu'on utilisait encore la langue gauloise. Alors, entre les magistrats, entre l'élite ou l'aristocratie qui utilise le latin et peut-être même qui ne la parle pas nécessairement toujours chez eux, il y a toutes les autres classes de population pour lesquels nous n'avons aucun moyen de vérifier.
Comme souvent.
L'archéologie, c'est un domaine qui n'est pas couvert par l'archéologie. Les inscriptions épigraphiques seront toujours en latin, puisque c'est la langue officielle, mais elles ne seront jamais en gaulois.
Mmh. Cela dit, on n'a pas non plus vu une langue de synthèse, hein, si je puis dire. On a le latin et le gaulois. Somme toute, assez peu de mélange.
Oui, on peut peut-être le vérifier à l'occasion d'une ou deux sources. C'est vraiment très peu de choses. Mais je vais parler de nomastique. Ça veut dire la science qui recherche les noms de personnes. Et on voit bien qu'il y a de temps en temps des populations ou des personnes individuellement qui conservent leur nom d'origine gaulois, mais qui le latinisent. C'est-à-dire que lorsque vous avez deux noms, vous êtes dans un monde qu'on appelle périgrin. Quand vous en avez trois, vous êtes dans dans trois noms qui se suivent, vous êtes dans un monde romain, c'est-à-dire vous avez la citoyenneté romaine, eh bien, il arrive parfois qu'un de ces trois noms est encore la consonance celtique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a latinisé la langue ou l'appellation d'un individu tout en conservant quand même son nom d'origine. Donc voilà peut-être une preuve d'un mixage assez évident entre, je dirais, la tendance de Rome à proposer trois noms pour obtenir la citoyenneté, à proposer des noms en latin et à conserver néanmoins, à cette occasion-là, un morceau de nom qui sera, lui, d'origine gauloise.
Mais latinisé tout de même. Je veux dire que la tendance est quand même claire.
Oui, mais chacun fait une partie du parcours, là. On vient avec une mode romaine, mais on essaie de conserver néanmoins un peu de son nom gaulois.
Ceci dit, c'est la langue de l'administration, c'est la langue du pouvoir, le latin.
Bien sûr.
Donc, il faut passer par le latin si on a un peu d'ambition, somme toute.
Ah, je crois que les élites, en tout cas l'aristocratie, a vu l'opportunité avec le monde romain, peut-être de gagner quelques galons dans le monde administratif. Et là, on ne peut pas éviter, évidemment, de passer par le latin pour pouvoir grimper les échelons. Et donc, c'est évident qu'on a dit aussi que, selon une très belle expression d'un historien anglais, on parlait de devenir romain. C'est-à-dire comme s'il y avait une aspiration, à un moment donné, dans la société, à être comme les Romains ou à devenir romain. Devenir romain veut dire, en finale, acquérir la citoyenneté romaine. On pouvait le faire dans l'ensemble de l'Empire. Mais aspirer à être romain, ça veut dire aspirer à un niveau, à monter peut-être dans l'échelle sociale aussi, et à participer à une économie qui n'est plus du tout celle qui était auparavant.
C'est un grand marché. C'est la globalisation, effectivement.
Voilà, c'est un très, très grand marché. Oui. Et tout le monde en a profité, de ce marché-là. Les classes sociales les plus défavorisées étaient des travailleurs, donc ils n'en ont pas profité, je dirais, directement, comme toujours, mais indirectement, ils ont vécu dans un monde intégré qui était quand même différent.
Il faudrait quand même dire un mot maintenant, peut-être, du livre. Hein. Donc, c'est un gros volume, il pèse son poids, je ne l'ai pas pesé, mais c'est solide. Quelle est l'ambition de ce livre ? Donc, c'est, je rappelle, Les Romains en Wallonie, ça paraît aux éditions Racine.
Alors là aussi, puisqu'on parlait de mixité, il faut présenter le livre comme étant, au fond, une association de deux initiatives. C'est peut-être pour ça qu'il est rendu un peu plus gros. En fait, il a une partie, ce qu'on pourrait appeler patrimoniale. On essaye de dire, à partir de la Wallonie, de présenter un choix de sites archéologiques qui sont parlants pour tout le monde.
Un choix, hein ?
Un choix, oui. On n'a évidemment pas été faire des inventaires ou des cartes archéologiques qui sont plutôt l'œuvre des scientifiques, dans le sens où il y a un travail scientifique qui se fait dans le domaine du fait de répertorier les sites archéologiques. Ici, on a fait la démarche inverse. On a choisi des sites qui nous paraissaient représentatifs en les traitant dans le détail et intégrant un inventaire, je dirais à titre d'exemple, des sites archéologiques que l'on peut retrouver dans le monde gallo-romain et en particulier ici en Wallonie. Donc, c'est une œuvre patrimoniale qu'il peut laisser quelques traces dans le sens où c'est un inventaire choisi, si vous voulez. C'est un peu un select des sites
best-of.
Principaux. Un best-of des sites principaux qui marquent un peu la présence de Rome dans nos régions. Et la deuxième partie, qui est l'introduction et qui est assez longue aussi, remet les choses, voit les choses autrement. On va évidemment utiliser les sites archéologiques de Wallonie, mais je crois qu'on va monter un peu plus haut que la Wallonie. On va considérer plutôt le nord de la Gaule d'une manière générale on le remettra dans un contexte alors qui est celui précisément des questions posées sur la romanisation. Donc il y a nettement deux parties qui illustre l'autre en termes de sources archéologiques et l'autre qui fait une synthèse un peu plus large que le corpus, que le best-of dont vous parliez.
Mmh. Est-ce qu'on a beaucoup de choses ?
Alors oui, la Wallonie, comme l'ensemble de la Gaule, est évidemment à cette période, et pour 4 siècles, vous imaginez bien, a laissé beaucoup de traces. Ce qu'on regrette toujours, c'est de ne pas disposer de beaucoup de textes. Nous sommes tout de même à la périphérie de l'Empire, un endroit où on a moins de sources qu'en Italie, par exemple. On a aussi, évidemment, une histoire moins longue par rapport à l'Italie ou la Méditerranée, c'est évident. Mais en termes de sources archéologiques, nous en avons beaucoup. On peut retrouver la trace de Rome un peu partout, et d'ailleurs, dans le choix, la sélection des sites que nous avons fait, vous verrez sur les cartes de répartition qu'il y a beaucoup de communes de Belgique, enfin en tout cas de Wallonie, qui révèlent l'un ou l'autre site archéologique gallo-romain de grande importance ou d'importance moyenne.
beaucoup de communes, mais ce n'est pas forcément toujours aux endroits actuels.
Hein. Ah non, ça change beaucoup. Hein, oui. Oui, oui, oui.
Ça, c'est quand même un peu surprenant.
Oui. Hein. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a, je ne dirais pas des modes, mais des habitudes d'une époque à l'autre. Si vous prenez, par exemple, la période médiévale, surtout le début de la période médiévale, qui correspond à la naissance de nos villages, on va souvent voir les villages être implantés dans des vallées. C'est presque coutumier et au fond, ces villages médiévaux ont encore une histoire aujourd'hui. Ce sont nos villages à nous qui se développent. À l'époque romaine, ce n'est pas du tout la même chose. On a tendance à essayer d'implanter les sites dans des régions complètement, ou dans des zones géomorphologiques complètement différentes. On est plutôt sur les crêtes, sur les hauteurs. Alors, pas pour tous les sites. Il y a des sites en vallée. Là, Namur a été occupé.
Oui, mais il y a la Meuse aussi.
Il y a la Meuse, il y a l'Escaut, évidemment. Donc, il y a des sites prodigieux qui s'y développent. Mais une grande partie des sites ruraux, on va choisir un environnement totalement différent. Et c'est peut-être pour ça qu'on découvre finalement beaucoup de villes romaines, par exemple, parce qu'elles se trouvent en plein champ actuel, loin de l'habitat moderne. Mmh.
C'est classé par province, hein. Bon, il faut bien trouver un mode de présentation, et je dois dire que c'est assez équitablement réparti, hein, somme toute.
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il fallait choisir un peu aussi les sites les plus représentatifs d'une région à l'autre. On a utilisé les provinces, on aurait pu utiliser une autre façon de découper, mais je crois que c'est plus commode pour celui qui consultera l'ouvrage. Mais surtout, on voit aussi... pas vraiment dans un cadre provincial, mais dans un cadre sous-régional, on voit quand même des spécialisations. Je prends un exemple. Dans la région de Liège, il y a un patrimoine archéologique qui est très, très développé autour de ce qu'on appelle les tumulus, donc les tertres funéraires.
L'ASB.
L'ASB, voilà. L'ASB qui est évidemment...
C'est les collines de l'ASB, au fond. Hein.
Oui, qui est surtout liégeoise pour ces aspects-là, parce que ça déborde un peu sur le Namurois et le Brabant, mais c'est même surtout liégeois. Et donc, on a évidemment plus de sites... concernant cette thématique-là dans la région liégeoise. Dans le Hainaut, on aura des sites qui seront assez développés le long du bassin de l'Escaut, par exemple. Et vous imaginez, dans le Namurois, bon, c'est évidemment aussi à la fois les sites archéologiques accrochés à la vallée et ceux qui se trouvent en chondro, dans des régions qui sont aussi fertiles à l'époque romaine, dans lesquelles on va développer une économie agricole très, très puissante. Donc, finalement, en mettant bout à bout l'ensemble de ces provinces, on dégage peut-être un peu de variété dans les sites choisis.
Alors, votre préoccupation, c'est bien entendu, on a compris, l'archéologie. Autrement dit, on fouille et on trouve des restes matériels. Et on sait donc que la grande question qui est celle de savoir comment, au fond, ce mélange entre Gaulois d'un côté et Romains de l'autre a pu se passer, c'est quand même beaucoup un problème de mentalité, précisément. Est-ce qu'on peut faire, moyennant donc ce passage par les objets, le lien avec ce problème de mentalité ?
Si on prend l'archéologie, puisque les sources, comme on l'a indiqué, sont extrêmement limitées en termes de sources historiques ou d'archives, on pourrait dire que l'archéologie va nous documenter sur des traces archéologiques, c'est-à-dire ce qui reste de bâtiments construits par Rome ou d'infrastructures construites par Rome et des objets qui sont retrouvés dans les sites archéologiques. Donc l'archéologie a comme première vocation de nous faire découvrir des sites, et on en découvre tout le temps, qui font partie d'une véritable puzzle qui correspond au fond aux témoignages de Rome au sein de nos régions. Et les objets ou les sites, si on veut prendre un peu de recul, on va les appeler autrement, on va les considérer comme étant des reflets de ce qu'on appelle la culture matérielle. En sachant bien qu'à partir du moment où les archéologues travaillent sur la culture matérielle, c'est qu'ils vont approfondir un peu leur façon de travailler sur des témoins qui sont des restes archéologiques, des bouts de murs, des morceaux de poterie et d'autres objets. Et la culture matérielle, c'est alors le passage difficile qu'il faut opérer. On doit partir de l'objet, on doit partir d'un élément tangible, puisqu'on n'a pas beaucoup de textes, et on doit le faire parler. Et le faire parler, ça veut dire que chaque objet peut faire partie d'une culture matérielle. Il peut représenter quelque chose. Si je prends une amphore, ce qui est même un vestige archéologique particulièrement bien connu, une amphore peut venir, par exemple, de l'Afrique du Nord, transporter dans son contenu, parce qu'on le sait, transporter tel type de denrée, par exemple du vin ou de l'huile.
Ou du garum.
Voilà, on on a vraiment le choix. Mais on connaît les provenances, on connaît même parfois les lieux de fabrication. Et donc, on va considérer chez nous qu'un morceau d'amphore retrouvé dans nos sites dans le Nord ou en Wallonie, c'est en fait un témoin de culture matérielle. Parce qu'il nous témoigne la présence d'une amphore venant de tel endroit qui, ayant contenu du vin ou de l'huile ou du garum, comme vous le disiez, nous donne en fait une explication sur un mode de cuisson, sur un mode alimentaire. Et donc, l'archéologie, c'est un peu ça. C'est de nous éclairer par la voie de la culture matérielle sur une façon de vivre, sur une façon d'avoir été influencé par le monde globalisé romain et de faire avancer nos connaissances de l'histoire par ce biais. C'est évidemment toujours un peu insuffisant. On voudrait en savoir plus, mais les archéologues travaillent à partir de leurs découvertes.
Mais pour rester dans cet ordre d'idées, je ne sais plus exactement à quel endroit, mais à un moment donné, on constate que les poteries changent. Et autrement dit, on peut en conclure, si je résume, qu'on arrête de faire mijoter pour faire une cuisine sautée, par exemple. Hein. On peut tirer ce genre de conclusion des éclats de poterie qu'on trouve dans un reste de cuisine ?
Tout à fait. Et on peut le faire parce qu'on connaît bien évidemment la céramique à travers les âges. Et on voit bien qu'à l'époque gauloise, on a surtout tenté de manger de la viande bouillie. C'est vraiment un mode alimentaire. Vous n'imaginez pas non plus d'avoir beaucoup de vin, ni d'avoir du garum. Le garum, c'est un peu le ketchup de nos jours.
C'est la sauce. Toute proportion gardée.
Oui, mais en termes quantitatifs, c'était vraiment très, très répandu. Et donc,
oui, ça, très bon. C'est une espèce d'assaisonnement à base de poisson.
Sauce de poisson.
On se demande un peu.
Fermenté,
ce que ça peut. Moi, ouais. Je me demande ce que ça peut goûter.
Je voudrais, dans la pensée des Gaulois, voyant sur la table du garum, parce qu'on peut imaginer que ce n'était pas leur tasse de thé, et que donc c'est un apport bien romain, en quelque sorte, qui a influencé complètement le mode de vie. Mais revenons à la cuisine, si vous voulez. Donc, on a une viande bouillie qui est plutôt à l'origine une façon alimentaire de procéder à l'époque gauloise. Et puis, on voit arriver la cuisine mijotée pour l'époque romaine. Alors pourquoi on la mijote ? D'abord, on le voit grâce au répertoire de la vaisselle de l'époque. On voit bien que la vaisselle va changer et elle peut même changer à travers le temps, entre le début de l'époque romaine et la fin de l'époque romaine. Et puis, on voit aussi de la vaisselle qui est spécialisée. Alors, il y a des vaisselles bien connues pour cuire le pain. Donc, c'est une vaisselle qui va au four. Ça, nous n'avions pas à l'époque précédente. Donc, ce sont des galettes, hein, mais il y a vraiment une vaisselle que l'on peut identifier comme telle. Alors, surtout, je pense que c'est là qu'il faut, qu'on a le plus d'informations, c'est lorsque l'on parle précisément des amphores, on voit arriver dans la cuisine de l'huile. Et il y a eu un commerce qui a été monté sur l'huile dans l'ensemble de l'Empire romain, qui est venu très, très longtemps d'Espagne, qui est extraordinairement fabuleux. Je vous renvoie au Monte Testaccio à Rome, où il y a à côté du Tibre un rejet pendant toute l'époque romaine de fragments d'amphores, enfin d'amphores cassés après utilisation de l'huile. C'est une montagne. En cours de nos jours, c'est une montagne, il faut grimper. Donc ça veut dire que la manière de fonctionner, Rome n'ayant pas assez d'huile, le fait venir d'Espagne, mais il mange de la cuisine à l'huile du matin au soir, j'allais dire. Et cette influence-là qui vient de Rome va toucher toutes les provinces. Donc il y a des modifications. Ces modifications ne sont pas faites au début. Je prends un exemple. On va retrouver ces modes alimentaires uniquement dans les ensembles militaires au début de l'époque romaine. Ce sont dans les camps militaires où on voit que l'intendance suit en régime militaire. Et donc là, ça suit très bien aussi. On a de l'huile, on a des choses comme ça au début, mais ça n'atteint pas encore la population civile. Mais avec le temps aidant, en passant du 1er siècle au 2e siècle, etc., ces modes-là vont être complètement absorbés par la population. Alors, on voudrait bien voir un Gaulois au milieu du 1er siècle et un Gaulois au milieu du 3e siècle pour voir ce qu'il mangeait réellement. Mais il y a eu des modifications, c'est sûr.
Est-ce qu'il buvait encore de temps en temps un coup d'hydromel
Il y a des fabrications, certainement. Je dirais que là, le marché de l'hydromel n'a pas conquis Rome. C'est le marché du vin qui a conquis la Gaule.
Oui, mais j'ai l'impression quand même que quand vous parlez d'échange, c'est quand même un échange un peu à sens unique quand même. Je veux dire, il y a des choses qui se préservent, mais l'apport en lui-même est assez réduit, me semble-t-il.
Je crois que c'est dû aussi au fait de l'organisation romaine. L'organisation romaine a vu clair, je dirais, dans le détail, tout de suite, dans son plan, dans son projet. Et il a vu qu'il fallait créer des infrastructures, qu'il fallait organiser les campagnes pour qu'il y ait une économie très, très développée et rapidement. Ils ont recréé les ensembles agricoles qui existaient déjà à l'époque romaine, mais sur un mode d'exploitation intensive. Donc c'est sûr que c'est la vision de Rome qui a permis ça, c'est pas la vision gauloise. Mais les Gaulois s'y sont associés assez bien et ont eu leur part de production. Quand on dit échange, il faut quand même voir que des richesses ont été dégagées dans le cadre du projet politique romain par nos Gaulois, par nos Belges.
Oui, ceci dit, Rome a quand même cette caractéristique d'être, comment je vais dire, d'une grande souplesse, hein, au fond, hein, parce que la diversité, je dirais, des peuples qui se sont retrouvés à un moment ou l'autre dans cet empire romain, avec, somme toute, assez peu de soucis dans l'ensemble, c'est quand même assez caractéristique, hein, de cette façon d'envisager les choses du côté de Rome. Hein.
Je crois que je le disais, ils ont été extrêmement visionnaires sur la manière de procéder dans chacune de leurs provinces après la conquête. Ils ont eu cette vision d'ensemble et ils ont bien compris qu'ils ne devaient pas vouloir tout régenter. Alors il y a des domaines forts, des domaines très forts qui sont liés à l'impérialisme romain. Ceux-là, ils sont là, ils sont incontestables. Et puis, il y a une part de permissivité, comme vous disiez, qui a favorisé précisément d'aboutir à un processus de mixité et de romanisation. Alors, je pourrais peut-être énumérer pour que les choses soient plus claires. En ce qui concerne l'apport de Rome en ligne directe, c'est d'abord la gouvernance. Il faut bien voir que Rome est venu avec un projet de gouvernance et qu'il n'en a pas changé. Il n'était pas question pour Rome de modifier quoi que ce soit. Donc la gouvernance est quelque chose qui s'applique à l'ensemble de l'Empire romain. Ça veut dire qu'on recrée des entités administratives qui sont bâties d'un point de vue théorique sur le même modèle. Mais là où il y a la permissivité, par exemple, ils ont rarement fait un découpage géographique d'une nouvelle entité, d'une nouvelle province ou d'une nouvelle sous-province. Ils l'ont rarement fait sur des normes à eux. Ils ont repris, par exemple, les territoires des anciennes peuplades. Donc à la fois, ils imposent une gouvernance, mais à la fois, ils tiennent compte d'un état de lieu existant. Là où ils ont aussi été performants dans le domaine, c'est dans ce qu'on appelle la municipalisation ou l'urbanisation. La municipalisation, ça veut dire qu'on va créer un modèle administratif pour l'ensemble des territoires. Alors, il est à peu près le même, équivalent d'une région à l'autre, mais avec de temps en temps les souplesses dont vous parliez. Et l'urbanisation est aussi un phénomène qui était peu connu, surtout pas dans nos régions. Donc c'est un élément que l'on va pratiquement obliger la population régionale à accepter, la création de villes. Il y a tous les travaux d'infrastructure. On sait bien que Rome a besoin de chaussées romaines. On sait bien que Rome crée des ponts, toutes des choses qui n'existaient pas en tant que telles pour faire fonctionner le nouveau modèle. Il y a l'architecture. L'architecture, c'est quand même une architecture de pierre qui va finalement, après quelques temps, succéder à une architecture gauloise qui est surtout une architecture de bois. Et puis, il y a les modèles économiques dont nous avons déjà parlé. Ça, c'est l'apport de Rome, je dirais, que l'on ne peut pas contester. Et il y a le deuxième volet qui est donc celui où on perçoit bien que l'on a laissé une part de responsabilité au monde gaulois et au monde belge. Le meilleur exemple, mais il y en a d'autres, le meilleur exemple, c'est dans la religion. Dans la religion, on a accepté très volontiers. On est dans un système polythéiste, c'est-à-dire que ajouter une divinité à une autre,
ça ne
change pas grand-chose. Donc pourquoi pas ouvrir les portes. Et on a imposé seulement un certain nombre limité de divinités.
À commencer par l'empereur.
À commencer par l'empereur, qui s'est très vite fait diviniser. Et puis c'était un moyen de gouvernance aussi. C'est de dire l'empereur, c'est le chef, mais c'est pas seulement le chef, c'est aussi un dieu.
Intouchable.
Hein, imaginons de dirigeants aujourd'hui qui seraient divinisés pour mieux assurer leur pouvoir, ça c'est de la politique vraiment impérialiste. Mais à côté de ça, les divinités locales, les divinités régionales, Rome ne s'y est pas opposé. Il s'est opposé à quelque chose dans le domaine de la religion. Il s'est opposé aux druides.
Voilà. Auguste a essayé de les réduire très vite, hein. Ça n'a pas trop marché.
Non, Tibère alors a dû le faire, et Tibère a été obligé finalement de mettre fin à cette espèce de caste. C'est vraiment une caste qui, un peu dans l'ombre, dirigeait les situations et les situations politiques, et à terme pouvait menacer en réalité le monde romain ou le monde romain après la conquête. Et donc ce que l'on peut dire très, très certainement, c'est qu'il y a une très grande permissivité dans la religion ou dans les religions que l'on pouvait pratiquer. On laissait le choix, mais véritablement un très très grand choix, aux unités administratives de se choisir elles-mêmes la religion qui lui convenait ou les divinités qui lui convenaient. Et tout ce qui pouvait s'opposer, évidemment, d'un point de vue humain et central par l'administration, comme les druides, là il y a eu un combat, mais c'est à peu près le seul.
Alors nous allons voir la semaine prochaine un peu dans le détail ce que l'archéologie nous apprend sur tous ces aspects que vous venez d'énumérer. Un dernier mot peut-être sur l'histoire de l'archéologie en Belgique. J'étais étonné d'apprendre que Charles Quint avait assisté, donc il y a 500 ans d'ici, au fond, à l'ouverture d'un tumulus à Zaventem.
Mais c'est vrai que...
c'est une histoire belge.
Oui, tout à fait. En plus, on est vraiment entre deux civilisations. Bah, il faut dire que la Renaissance qui va arriver a joué un très grand rôle dans l'archéologie. Alors, ce n'est pas l'archéologie comme on la connaît aujourd'hui.
Non, justement. Bah... Est-ce qu'au cours du temps, au fond, on a abîmé des choses?
Forcément, la première archéologie qui existait, c'est une archéologie de l'objet et du bel objet. Donc la Renaissance a évidemment contribué très fort à faire découvrir des valeurs esthétiques d'abord, qui sont celles de la Méditerranée, de l'Antiquité classique, et par voie de conséquence éventuellement des découvertes comme celles que vous venez d'évoquer. Mais ce n'était pas l'homme qui était au centre des débats, ce n'était pas véritablement l'histoire, c'était plutôt la belle pièce de musée. Et c'est comme ça que tous nos musées sont nés finalement, c'est par des découvertes qui... ont été par rapport à celui qui l'a fait ou par rapport à un musée.
Des cabinets de curiosité, au fond.
C'est des cabinets de curiosité, tout à fait. Mmh. Et au XVIIe siècle, il en existait partout. C'est une mode qui a évidemment été très, très développée. Alors l'archéologie, ce n'était pas de l'archéologie. Bien sûr, on dira, ça fait partie de l'histoire de l'archéologie, mais l'objectif n'était pas là. L'objectif de l'archéologie moderne, et en particulier d'aujourd'hui, a évidemment complètement changé.
Et elle a... une assise locale, hein, tout de même, de très longue date, après tout. Hein. Il y a des clubs d'archéologues, si je puis dire, locaux, qui ont fait quand même beaucoup de travail.
Ah oui, oui. Si on devait faire l'histoire de l'archéologie en bref, je dirais il y a cette première période de la découverte de l'œuvre d'art. Et ça va jusqu'à un objet en céramique, complètement secondaire. On ne va prendre que les belles céramiques, on va rejeter les autres. Et puis, il y a une seconde période dans l'histoire de l'archéologie, ce sont surtout les sociétés savantes, donc les cercles d'archéologie, les petits cercles à droite et à gauche, qui ont fondé la nouvelle archéologie. Et ça remonte un peu après le milieu du 19e siècle. Là, vous avez alors affaire à véritablement une mobilisation générale pour créer le nouveau musée et pour faire des fouilles archéologiques. Alors ces fouilles-là ont donné aussi des objets de musée, mais plus uniquement des beaux objets. On a donné tous les objets que l'on pouvait découvrir, avec souvent, à partir des années 60, 70 du 19e siècle, avec déjà un souci de faire des rapports. Les premiers rapports vraiment archéologiques, ça date de cette époque-là. Et puis l'archéologie moderne est née véritablement après la Première Guerre mondiale. On pourrait dire qu'au début du XXe siècle, on était dans la même logique. Donc il y a trois périodes. L'archéologie moderne va naître très très lentement, mais après la Première Guerre mondiale.
Bon, on est déjà à la fin. On se retrouve la semaine prochaine et on verra dans le détail, effectivement, tout ce que vous avez mis à jour, enfin, vous et beaucoup d'autres qui vous ont précédé, comme on vient de le dire, tout ce que cela nous permet de dire donc, sur cette présence romaine en Gaule. Donc, ça sera pour la semaine prochaine. Il me reste à remercier Pierre Derclé et Christine Bordet pour nous avoir aidé à mettre en nom de cette émission. Et alors, il me reste à vous donner rendez-vous donc, pour samedi prochain. Au revoir.
Retrouvez Mémo le samedi de 17h15 à 18h.
La première.